Bonsoir. Fin le week-end dernier du 18e sommet de la francophonie tenu à Djerba en Tunisie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du président Félix Tshisekedi à ce sommet, a exprimé sa satisfaction du fait que la voix de la RDC, qui subit une agression de la part du Rwanda sous couvert des rebelles du M23, ait été entendue à ses assises. D'après lui, cette agression a été clairement condamnée dans les résolutions prises au cours de ces assises qui se sont clôturées hier dimanche. À côté de cette question sécuritaire, nous avons voulu que les résolutions soient prises et nous remercions ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans les résolutions qui ont été prises cette condamnation des violences qui sont faites au Congo, a souligné Samalou Kondé. Le Premier ministre de la RDC affirme attendre voir une solidarité importante impliquant tout le monde afin d'avoir la résolution de cette question sécuritaire et un appui des processus de paix de Nairobi et de Luanda. Quelle analyse faire de ces retombées du sommet de la francophonie au sujet de la sécurité en République démocratique du Congo? Ces résolutions vont-elles cette fois-ci réellement stopper les affrontements en cours sur terrain et imposer une paix définitive dans la région des Grands Lacs? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale de la RDC. Juvenal Munubo, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Bonnard, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Également Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir JR.
Dona Madimba, ce soir, vous êtes professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Devrait pouvoir nous rejoindre aussi pour le casting de ce soir Martin Ziakouaou, docteur en relations internationales et professeur d'université, auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Je vous l'ai dit, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. À tous donc, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Fin le week-end dernier du 18e sommet de la francophonie tenu à Djerba en Tunisie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du président Félix Tshisekedi à ce sommet, a exprimé sa satisfaction du fait que la voix de la RDC, qui subit une agression de la part du Rwanda sous couvert des rebelles du M23, a été entendue à ses assises. Le Premier ministre de la RDC affirme attendre voir une solidarité impliquant tout le monde afin d'avoir la résolution de cette question sécuritaire et un appui des processus de paix de Nairobi et de Luanda. Billy Ivan Lutumba.
La participation de la RDC aux assises du 18e sommet de la francophonie, souligne Samalou Kondé, était une occasion de réaffirmer la position offensive diplomatique de la RDC impulsée par son président Félix Tshisekedi et aussi rappeler la position de la RDC comme grand pays francophone du point de vue démographique.
Nous remercions déjà la francophonie parce que nous avons pu voir dans la résolution qui a été prise cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question condamnation à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et donc nous espérons que avec toutes ces actions, il y aura une convergence pour que finalement nous puissions avoir la paix.
Samalou Kondé affirme attendre voir une solidarité impliquant tout le monde afin d'avoir la résolution de cette question sécuritaire et un appui des processus en cours, en l'occurrence celui de Nairobi ainsi que celui de Luanda dirigé par le facilitateur Uhuru Kenyatta et le président Ruto et du côté de l'Angola par le président Lourenço. Signalons qu'en marge de ce sommet, le Premier ministre a eu des rencontres bilatérales avec le président de la Commission de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, et le président de la France. Il a également échangé avec le président Daï Chinié, président en exercice de l'EEAC, organisation sous-régionale qui traite actuellement de ces questions particulières de sécurité à l'est de la RDC.
Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale de la RDC. Alors, il nous a été rapporté qu'il y a eu des avancées diplomatiques à ce sommet de la francophonie. En résumé, comme l'indique bien l'introduction de notre émission, le Premier ministre dit être satisfait des condamnations des pays africains, en tout cas ceux de la francophonie, de l'agression de la RDC mentionnée étant agressée par le Rwanda et les rebelles. Est-ce que l'opinion qui n'a pas encore le document devant ses yeux et n'apprend cette nouvelle que par les médias, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur ces condamnations de l'agression que subit la RDC? En quel terme ces condamnations ont-elles été faites?
Merci beaucoup. J'ai suivi, évidemment, à distance, parce que je n'étais pas à Gerba, et j'ai suivi aussi les différents reportages de vos confrères, des journalistes qui y étaient là. Et évidemment, il était annoncé une résolution dans ce sens-là. Et donc, ce que dit le Premier ministre, évidemment, ça avait été évoqué, que les États membres condamnent l'agression dont la RDC est victime, quoi, de la part du Rwanda. Et je trouve que c'est déjà une bonne chose. Mais un petit bémol, c'est que Madame Louise Mushikiwabo a été reconduite comme présidente de l'OIF. Est-ce que cela pourra bien faciliter la tâche? Je ne le crois pas. Hein? Je ne le crois pas. Donc il faut être très réservé. C'est vrai que sur le plan officiel, il y a cette condamnation, mais au niveau de la direction ou de la présidence de l'OIF, il reste une personnalité rwandaise. Et puis une personnalité qui ne sait pas agir d'abord comme numéro un de l'OIF, quoi, et qui agit comme si elle était encore ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et donc le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, a bien fait de le lui rappeler. Et je crois que le boycott de la photo de famille, c'est aussi un autre message quand même fort pour dire que Kinshasa n'est pas d'accord avec cette agression et que cette agression doit être davantage condamnée par la communauté internationale. Et donc cette condamnation, c'est déjà quelque chose. Je dirais que c'est une victoire diplomatique, mais un petit souci qui doit nous permettre quand même d'être réservés, de ne pas être naïfs, c'est que Madame Louise Mushikiwabo vient d'être reconduite à la tête de cette organisation. Et donc là, étant donné qu'elle agit plus d'ailleurs comme si elle était ministre des Affaires étrangères, alors qu'elle ne l'est plus, quoi. Elle est devenue secrétaire générale de numéro 1, donc de l'OIF. Et donc ça nous laisse encore un tout petit peu perplexe. Et donc nous avons des raisons d'être un tout petit peu réservés, de ne pas trop crier victoire à ce stade.
Mais Juvenal Munubo, le fait que madame l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda est à la tête de l'OIF, pourquoi pensez-vous que, même si elle peut avoir un parti pris, puisqu'elle est de ce pays-là, du Rwanda, quel mécanisme pourrait utiliser madame Mushikiwabo pour empêcher une résolution et qui a été prise en plénière et par l'organisation tout entière?
Alors, par sa position, elle peut toujours abuser, quoi. Par sa position, elle peut toujours abuser. Vous savez, dans l'espace OIF, il y a des États, au fait, qui ont un poids, hein, un poids important sur le plan des relations internationales, des pays comme la France, par exemple. Et donc, la voix de numéro un de cette organisation, c'est pas du tout négligeable. Donc, elle peut toujours user de son influence. Et pas dans l'intérêt du Congo. Vous voyez, elle peut toujours peser de son influence comme numéro un de l'OIF. Et elle peut influer, mais pas positivement, mais plutôt négativement sur les intérêts du Congo. Raison pour laquelle nous devons être réservés, ce n'est pas totalement une victoire en tant que telle. Hein. Nous notons avec satisfaction cette condamnation, évidemment. Nous attendons nous tous lire les termes de la résolution, comment est-ce qu'elle est formulée. Mais nous devons rester assez vigilants parce que les rôles que joue Madame Louise Mushikiwabo à ces postes-là, en tout cas, elle joue ces rôles-là avant tout pour les intérêts du Rwanda et elle s'exprime un peu comme s'exprimeraient les porte-parole du gouvernement rwandais. Donc elle n'arrive pas à se détacher, elle n'arrive pas à bien faire la différence entre ses fonctions actuelles et c'est quand était ses fonctions quand il était chef de la diplomatie rwandaise.
Alors, connaissant toutes les pesanteurs justement qui peuvent dans une situation comme celle-ci peser sur quelqu'un dont le pays est impliqué dans des difficultés avec son voisin, a-t-il été à un moment possible que, à cause justement de la situation actuelle et de ses difficultés, que Madame Mushikiwabo ne soit pas reconduite à son poste et que, pour préserver justement un traitement neutre, que quelqu'un d'autre puisse le remplacer. Est-ce que cela a-t-il été possible ou aurait-il pu être possible?
Moi, je sais par exemple que le Congo, dans la diplomatie des coulisses, dans les contacts qui ont eu lieu, le Congo ne souhaitait pas voir Madame Louise Mushikiwabo reconduite à ses postes. Mais la diplomatie congolaise, en dépit des efforts qu'elle a fournis, n'a pas pu obtenir la disqualification de Madame Louise Mushikiwabo. Surtout qu'elle était en quelque sorte comme candidat unique quoi à ces postes-là. Ça, il faut noter aussi. Et puis, elle a bénéficié vite aussi de l'appui hein, des partis qui pèsent dans cet espace comme la France. On a vu comment la France lui a rapidement apporté son appui. Tout ça, il faut considérer. Et donc voilà, donc le Congo s'est battu à essayer de rallier un grand nombre pour que Madame Mushikiwabo ne soit pas reconduite. Mais voilà, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a été reconduite à l'unanimité. Voilà, donc c'est elle qui va encore présider, au destiné de cette organisation internationale.
Merci Juvenal Munubo, Moïla Chiembe, professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, est-ce que le fait que Madame Mushikiwabo, de nationalité rwandaise, continue ses fonctions en tant que numéro un de la francophonie, pose-t-il vraiment problème si, comme nous l'avons entendu des résolutions de dernières assises, le Rwanda, son pays, est tenu pour responsable et condamné des agressions qui se font actuellement à l'est de la République démocratique du Congo?
Non, je pense qu'il faut dissocier une certaine opinion sentimentaliste des Congolais, certains Congolais naturellement, qui associent à la francophonie en tant qu'institution, une organisation, avec la personne de Madame Mushikiwabo. En fait, ce que Madame Mushikiwabo a rappelé est inscrit dans le processus de Nairobi. Qu'est-ce qu'on a dit à Nairobi? Toutes les forces négatives doivent être sommées, soit de négocier la paix. Dans cette hypothèse, les FDLR doivent faire partie de l'équation. Ou ils décident de rentrer chez eux au Rwanda, ou ils décident de rester en République démocratique du Congo. Dans cette hypothèse, les FDLR doivent choisir un statut à demander au gouvernement congolais, soit ce sont des réfugiés, officiellement la République démocratique du Congo, saisie par ces derniers, examinerait la possibilité de leur octroyer le statut de réfugiés. Ou bien ce sont des migrants qui ont été entraînés là contre leur gré à l'époque de guerre dont on sait au lendemain du génocide. Ça relève deux mécanismes de Nairobi, de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, Madame Mushikiwabo n'a rien dit de scandaleux lorsqu'on a une vision stratégique de ces événements et diplomatique. Elle n'a fait qu'exprimer ce que tout le monde sait. Et d'ailleurs, lorsque le président Kagame avait souhaité se joindre au mécanisme de Nairobi et que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à juste titre, à partir de rapports des Nations Unies qui attestent pour la première fois depuis bien longtemps que le Rwanda a été attrapé la main dans le sac, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas voulu que le Rwanda soit associé militairement aux enjeux en cours. Mais il n'en reste pas moins vrai que dans la mesure où le processus de Nairobi prévoit que toutes les forces négatives doivent partir, doivent négocier. Et si elles négocient pas, elles subiront les foudres de la guerre. Donc nous sommes là dans le réalisme le plus simple. Parce qu'au fond, si vous regardez bien, il y a eu une certaine opinion congolaise qui considérait que le président de la République perd son temps avec la diplomatie. Hier, l'Union africaine avec le processus de Luanda, après le processus de Nairobi, aujourd'hui avec la francophonie, tout ça c'est du pipeau, il faut faire la guerre. Mais la guerre, JR, la guerre, la République démocratique du Congo est en train de la faire avec une légitimité du droit international. Pourquoi ? Nous sommes face à un groupe terroriste, le M23. Or, si on regarde les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 1373 ou la résolution 1368, le terrorisme est considéré comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. En conséquence de quoi ? Tout pays qui fait l'objet d'agressions terroristes a le droit légitime de se défendre, les armes à la main, seul ou avec des alliés.
Mais professeur Mwaila, est-ce que Madame Mushikiwabo, de par sa position à l'OIF, peut-elle s'imposer à une décision qui a été prise collectivement par l'institution OIF ou pas?
Non, non. Statutairement, elle n'a pas de compétence en dehors de ce que disent les chefs d'État et de gouvernement qui lient la francophonie. Le directeur général de la francophonie, c'est une personnalité, certes, elle peut avoir son opinion, elle peut avoir son influence, mais la décision finale est prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement.
Alors, professeur Mwaila Tshiembe, faut-il, en bref, un peu avoir de la réserve, comme le soulignait tout à l'heure l'honorable Juvenal Munubo, malgré cet élément plutôt positif en faveur de la République démocratique du Congo, ou faut-il se lancer, comme vous semblez ne pas être d'accord, dans la guerre et dans le rapport de force?
Non, je pense qu'il a raison de dire oui, c'est un pas positif, parce que la francophonie a condamné l'agression. Bien entendu, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je peux faire confiance aux propos du Premier ministre. Si tel est le cas, on peut se réjouir que l'Organisation internationale de la francophonie condamne l'agression. Et dans la mesure où le président de la République a déjà répété 1000 fois que la République démocratique du Congo est l'objet d'agression de la part du Rwanda avec sa main armée, le M23. C'est clairement dit, tous les Congolais le savent. Alors, le fait de le répéter n'est pas mauvais. Alors, sa réserve permet de dire oui, ça a été dit. D'ailleurs, le Premier ministre a enchaîné en disant, dès lors que vous avez dit qu'il y a une agression, montrez-moi votre solidarité avec la République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait logique. Alors, cette solidarité peut s'exprimer soit par la voie humanitaire, les colonnes de Congolais fouillant les délinquants armés que tout le monde compte. C'est une consternation pour ces gens, ces hommes, ces femmes et ces enfants. Alors, si la francophonie pouvait donner un coup de main humanitairement, ce serait à saluer. Mais il n'y a pas que l'humanitaire. La République démocratique du Congo a déclaré plus d'une fois qu'elle est en guerre. Et là aussi, il faut préciser de quoi il est question. La République démocratique du Congo n'est pas en guerre contre le Rwanda. La République démocratique du Congo est en guerre contre le mouvement terroriste de M23 qui occupe le territoire de la République démocratique du Congo. Certes, ce mouvement est soutenu par le Rwanda et la guerre actuelle que mène le gouvernement congolais, la guerre est menée contre ce mouvement terroriste qui occupe une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Donc, légitime défense, il ne s'agit pas pour la République démocratique du Congo de porter la guerre sur le territoire du Rwanda. Ce n'est ni nécessaire ni opportun, parce que le territoire aujourd'hui menacé, ce n'est pas le territoire du Rwanda. Mais si demain, il s'est révélé que, indépendamment d'échantillons de soldats probablement prêtés au M23, affronter les phares d'essai sur le territoire de la République démocratique du Congo, alors, en ce moment-là, la République démocratique du Congo serait fondée en droit sur le principe de poursuite, de pourchasser ces soldats rwandais, y compris sur le territoire du Rwanda, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Merci.
Moins dans la preuve apportée par les deux parties.
Merci professeur Moïla Tiembe. Nous avons donc annoncé comme troisième intervenant dans les échanges de ce soir, professeur Martin Ziakouaou, mais il ne répond plus à son téléphone. Et nous avons le plaisir de recevoir, pour compléter le tableau de ce soir, un autre enseignant d'université, Augustin Mouessi, professeur des sciences politiques à l'université de Goma et université catholique Graben de Butembo. Professeur Augustin Mouessi, bonsoir.
Bonsoir.
Que savez-vous particulièrement des termes de ces prises de position sorties de l'organisation de la francophonie?
Oui, il faut dire que les termes qui sont sortis de ce sommet de la francophonie sont assez forts et je dirais même assez favorables à la République démocratique du Congo, parce que lorsqu'une organisation internationale parle des condamnations, c'est déjà là les résultats des travaux diplomatiques qui a produit, qui a fait une percée. Et c'est une marque, à mon avis, de solidarité aussi. Mais cependant, en matière de, à ce qui concerne la guerre sur les terrains, il faut continuer à se dire que ce n'est pas suffisant. On peut même se poser la question de savoir quel sera effectivement l'impact de cette condamnation sur les hostilités qui se déroulent sur les terrains ou même sur la cessation des hostilités.
Professeur Mouessi, vous allez nous en dire, vous allez nous donner votre position tout à l'heure, hein, avant qu'on termine l'émission, mais avez-vous cette même impression que le sommet de la francophonie a apporté un vrai plus qui manquait, ou vous pensez que c'est juste dans l'ajout de ce qui se fait déjà comme consultation de la RDC, des structures internationales, des personnalités qui peuvent compter et avoir le poids pour aider à solutionner le problème qui se passe à l'Est?
Oui, en fait, comme organisation, parce que ce sont les États qui ont essayé de sommer, de faire pression sur le Rwanda, ou même qui se sont prononcés un peu sur ce qui se passe à l'est de la RDC ou entre le Congo et le Rwanda, mais cette fois-ci c'est une organisation internationale qui a sorti une condamnation officielle. C'est déjà ça c'est la valeur de cette résolution. Mais cependant, comme Docker l'a dit, l'OIF ne devrait pas se contenter seulement de faire la condamnation, mais c'est de pouvoir, l'OIF devrait, à plus de cette condamnation, poser d'autres actions, allant dans le sens d'aider la RDC à juguler cette crise sécuritaire qui a trop duré à l'est de la RDC. Et l'OIF devrait, à plus de cela, mener, n'est-ce pas, une diplomatie, joindre ses efforts aux efforts qui sont déjà fournis par les autres organisations sous-régionales.
Professeur Augustin Mouetti, la RDC, comme je le disais, se retrouve dans plusieurs processus de paix, hein, plusieurs initiatives pour essayer de résoudre ce problème. Il y a déjà la présence du médiateur angolais, puis du facilitateur kényan, et l'intervention des forces comme les forces des États de l'Afrique de l'Est et beaucoup d'autres forces étrangères. Est-ce que les résolutions de la francophonie sont un peu plus que toutes ces initiatives, ou à titre de comparaison ont un poids moins important ou juste complémentaire?
Bon, lorsqu'on regarde l'influence de la francophonie sur la politique des États membres, on peut se dire que c'est une sorte de répétition, donc on peut rester un peu prudent en se disant que, bon, c'est une sorte de répétition de ce qui se passe, mais que c'est quand même quelque chose que et que l'OIF ait eu aussi ait pris justement cette résolution et qui est en faveur pratiquement de la République démocratique du Congo. Mais c'est plutôt l'impact de ce que cette résolution aura sur la situation sécuritaire qui serait, n'est-ce pas, intéressant à pouvoir décrypter, à pouvoir observer dans le futur.
Merci, professeur Augustin Mouetti, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique de Graben à Butembo. Puisque vous avez la parole, professeur, nous venons d'ouvrir le standard pour écouter la position de nos auditeurs. Nous allons pour vous, professeur, écouter ce commentaire de Sony de Ariwara.
C'est Sony Benjamin depuis Ariwara, en territoire d'Arou. Nous sommes la volonté du chef de l'État congolais de rétablir la paix à l'est de la RDC. Lui seul ne pourra rien faire. C'est pourquoi nous demandons à tous les Congolais de lui emboîter les pas. Par contre, nous décourageons tous ceux qui s'impliquent dans le soutien aux forces négatives. Sinon, eux aussi seront confondus à elles.
Merci, professeur Mouetti.
Oui, effectivement, comme l'a dit l'auditeur, c'est que le gouvernement fait à travers, évidemment, ses officiels, le chef de l'État et le Premier ministre, et les autres ministres, en vue de porter haut la voix de la République démocratique du Congo, qui connaît, en fait, une situation d'insécurité permanente à l'est de la RDC. C'est déjà considérable sur le plan diplomatique, mais ce volet diplomatique mérite d'être appuyé, n'est-ce pas, par effectivement des efforts qui seront menés au niveau interne, parce que pour que effectivement on arrive à mettre fin à cette situation de conflictualité à l'Est, il faut absolument travailler, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, travailler sur le plan diplomatique, ce qu'il est en train de le faire, ce qu'il est en train de faire, mais aussi également mener des actions au niveau interne, sur le plan notamment militaire, mais aussi appeler à la mobilisation, rendre effective en fait la mobilisation des Congolais pour qu'effectivement on aille vers la résolution de cette situation qui n'a que trop duré.
Merci, professeur Mouetti. Professeur Moïla Chiembe, professeur à l'université de Kisangani et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Pour vous, nous allons suivre ensemble cette intervention de Robert Baume.
Robert Baume de Bukavu, au sud de Kivu. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ce sommet de la francophonie tenu récemment en Tunisie. Il est vrai que l'on a fustigé l'agression de la RDC par les Rwandais via le M23, ce qui est une chose. Mais arriver à mettre en exécution les différentes recommandations issues de ce sommet en est une autre. La RDC ne devrait pas compter sur les organisations ni les gouvernements occidentaux. Elle n'a qu'à se débrouiller seule pour pouvoir en finir une fois pour toutes avec l'agression du Rwanda dans sa partie orientale.
Professeur Moïla Chiembe.
Oui, mais ça c'est ce qu'on entend tous les jours. Si vous êtes attentif, chaque fois qu'on entend les collègues universitaires, ONG, société civile, c'est ce qu'on entend tous les jours. La communauté internationale, ça ne compte pas. Notre pays doit se débrouiller tout seul. C'est pessimisme ambiant compréhensible parce que ça fait plus de 20 ans que l'Est de la République démocratique du Congo est en instabilité. On peut comprendre les Congolais et tous ceux qui ne le sont pas qui tiennent ces propos parce que déçus d'année en année. Mais la République démocratique du Congo fait partie du monde. Prenons la résolution qui vient d'être prise par le sommet de la francophonie. Pour la première fois, il a été nommé l'innommable l'agression. Savez-vous, chers messieurs, que l'agression, il n'y a que le Conseil de sécurité, au sens de l'article 39, chapitre 7, qui a qualité en droit. pour nommer les actes d'agression menés par les États contre d'autres États ou par d'autres groupes encore. Et regardez même comparativement, parallèlement, la guerre d'Ukraine. La Russie mène la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler par une organisation régionale, quelle qu'elle soit, du terme d'agression? Pourquoi? Outre la peur généralisée, parce que la Russie peut utiliser les armes nucléaires, mais il y a aussi une sorte de, comment dirais-je, paralysie, les gens sont tétanisés de ne pas prononcer un terme que tout le monde attendait, mais que seul le Conseil de sécurité pouvait prononcer, c'est-à-dire l'agression. Monsieur Gier, l'agression donne droit à la République démocratique du Congo de s'autodéfendre. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, le fait que ce soit répété par, je ne dis pas que la francophonie et le Conseil de sécurité, et vous savez que le Conseil de sécurité est paralysé, non seulement par la guerre que mène la Russie, et comme la Russie a le droit de veto, le Conseil de sécurité, matin et soir, se dérobe de ses responsabilités sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale au sens de l'article 24 de la Charte qui lui a donné cette mission. Non, je pense que de bonne foi, vraiment, si on est de bonne foi, sentiment ailleurs, la République démocratique du Congo doit faire face à la menace à l'Est contre le M23, les armes à la main, c'est ce qui se fait tous les jours. Et on doit soutenir cette action de par-dessus, comme on voit les mouvements de jeunesse partout qui se mobilisent derrière l'appel du chef de l'État. Ça, ça doit se faire, parce que c'est le droit souverain de la République démocratique du Congo. C'est son territoire qui est occupé, c'est la moindre des choses que le gouvernement devrait faire. Et alors, passer tout cela au compte pertes et profits au motif que le Congo doit s'occuper tout seul, mais c'est évident. Le Congo doit s'occuper tout seul. Mais le Congo n'est pas seul dans le monde, voyez-vous. Contrairement à ce qu'on pense, Dieu sait que ces idées un peu farfelues dominent pratiquement tous les médias. Que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, tous les réseaux sociaux, il faut regarder. JR, vous êtes plus spécialiste que moi. Tout le monde est féticide. Voilà, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que nous fassions nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous devons faire nous-mêmes? On a l'armée qui se bat avec les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre nous-mêmes? Est-ce qu'on attend un miracle quelconque? Non, JL.
Merci.
Tous les États ont le droit, lorsqu'il y a une menace à la paix, lorsqu'il y a un différend, la Charte des Nations Unies recommande aux États de régler leurs différends par les moyens pacifiques. Le fait que le gouvernement congolais le fait, ce n'est pas une faiblesse. Il faut explorer toutes les voies diplomatiques. Mais parallèlement, puisque la guerre est déjà menée sur place par le M23, la République se bat à travers les FARDC jour et nuit. Donc on ne peut pas tenir ce discours un peu alambiqué. Tantôt, oui, la communauté internationale, ça ne sert à rien. Nous devons faire nous-mêmes. Mais nous devons faire nous-mêmes. L'armée se bat jour et nuit.
Merci professeur Boyela Tiembe, nous vous gardons dans ce débat pour les moments de conclusion. Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Pour vous aussi, ce commentaire de Alidor de Kananga.
Maître Alidor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga. Nous saluons les résolutions prises au niveau du sommet de la francophonie concernant la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, il ne faut pas seulement se limiter au niveau des résolutions et des recommandations qui, du reste, sont dépourvues de tout caractère contraignant. Il eût fallu des sanctions claires et exemplaires à l'endroit du M23 et de tous les pays qui les soutiennent. C'est pourquoi, au niveau de la République démocratique du Congo, on doit continuer à faire le lobbying et à faire entendre sa voix à tous les niveaux pour que toute la communauté internationale puisse s'éduquer comme une seule personne derrière la République démocratique du Congo en lui apportant appui et aide sur le plan financier, sur le plan militaire et aussi sur le plan humanitaire pour faire face à l'agression qui prévaut dans la partie est du pays, de la même façon que la communauté internationale s'est mobilisée vis-à-vis de la situation entre la Russie et l'Ukraine. C'est en faisant cela que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo peut changer.
Juvenal Munubo.
Je crois que Maître Alidor a raison, parce que, vous savez, l'Organisation internationale de la francophonie, ce n'est pas seulement un espace pour le partage de la langue française, mais c'est aussi un espace pour le partage des valeurs, hein, des droits humains, où chaque État doit respecter la souveraineté de l'autre. Et donc, on devrait aller au-delà de la condamnation officielle, envisager des sanctions, pourquoi pas. Donc, il faut que notre diplomatie arrive à percer davantage. Donc, nous encourageons notre gouvernement pour les efforts qui sont fournis, mais il y a moyen d'en faire plus. Et je crois que ce n'est pas impossible, par exemple, qu'on arrive à une situation où l'OIF prend une sanction contre le Rwanda. Difficile dans ce cas-là de prendre directement une sanction contre la M23, parce que la M23 c'est quoi? La M23 c'est juste un instrument qui utilise le Rwanda. Et donc s'il y a un acteur qui doit être sanctionné sur le plan international par une organisation comme l'OIF, c'est bien le Rwanda. Le Rwanda comme un membre de l'OIF, sur base d'un rapport des Nations Unies bien documenté, l'OIF pourrait bien se saisir de ces rapports-là, mais tout dépend de la capacité de notre diplomatie, pour obtenir, par exemple, une suspension du Rwanda de l'organisation. Donc c'est une possibilité, on pourrait bien y arriver, mais tout dépend de la capacité de notre diplomatie à rallier un certain nombre d'États à la cause de la RDC, d'aller au-delà de la condamnation formelle, d'arriver à des sanctions, et sanctions dirigées par exemple contre le Rwanda. Et donc ceci me permet aussi, comme j'ai la parole, j'en profite. Actuellement, on parle du processus de Nairobi. J'ai entendu le prof Moïla Tchiembe parler des FDLR. Les FDLR suivent un processus depuis longtemps, c'est les PNDDRRR. Ça date de longtemps. Mais le processus de Nairobi, qui a été relancé aujourd'hui, a deux volets. Le premier volet, c'est le volet interne, c'est-à-dire qui concerne les groupes armés locaux. Et à ce niveau-ci, il y a deux choses. Vous déposez les armes et vous souscrivez au programme de désarmement interne, PNDDRC en l'occurrence. Et le volet régional, c'est l'envoi évidemment d'une force régionale, East African Community. Mais attention, pourquoi? Parce qu'il y a des questionnements depuis hier avant-hier par rapport à cette force. Cette force qui, jusque-là, ne se montre pas comme une force offensive. Et pourtant, l'attente des populations congolaises de l'Est, les populations voudraient que cette force soit une force en appui au FRDC pour lancer des offensives ensemble avec le FRDC contre le groupe terroriste, la M23. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette force a tendance à se comporter maintenant là comme si c'était une force d'interposition. Ce qu'il faut éviter à l'Est, c'est quoi? C'est que, en cas d'un retrait du M23, ce qu'il faut éviter, c'est de créer une zone tempo, c'est-à-dire une zone qui ne serait pas, qui échapperait à l'administration du gouvernement, une force régionale qui occuperait cet espace. Ça, c'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Que ce soit les États de la région des Grands Lacs ou des East African Community, que ce soit au niveau de l'espace OIF, toutes ces initiatives devraient aider les Congos, c'est-à-dire le gouvernement congolais, à reprendre les contrôles, l'effectivité de sa gouvernance à l'Est.
Merci.
Dans toutes les zones qui ont été occupées par la M23. Ça ne servirait à rien de créer une zone tempo, parce qu'une zone tempo, plus elle dure, elle donnerait l'impression d'être dans une sorte de balkanisation.
Merci.
Et donc, il faut faire attention. Si la M23 se retire, eh bien, il faut que l'administration congolaise se redéploie le plus rapidement possible. Il faut qu'il y ait pour cela un plan de désengagement, un plan de retrait, un plan de désengagement total du M23, un plan de redéploiement de l'administration congolaise et des FRDC.
L'émission Dialogue entre Congolais de ce soir est revenue donc sur les conclusions du dernier sommet de la francophonie en Tunisie. En guise de conclusion, et nous commençons avec vous, Juvenal Munubo, vu que vous venez de prendre la parole à ce moment de nos débats. En guise de conclusion, pensez-vous que cette position sortie de l'Organisation de la Francophonie en faveur de la République démocratique du Congo peut jouer un rôle peut changer quelque chose dans la réalité des affrontements actuellement en cours sur le territoire congolais.
Oui, Donna, la bataille, elle est à Rutshuru, sur terrain, c'est-à-dire il faut tout faire pour reprendre toutes ces localités-là, mais la bataille, elle est aussi sur le plan diplomatique. Et de ce côté-là, nous encourageons notre gouvernement. C'est une bataille gagnée à Djerba, au niveau de l'OIF, c'est-à-dire de l'Organisation de la Francophonie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs batailles qu'il faudra livrer dans ce cas-là. Parce que le Rwanda, il a certains appuis sur le plan international, ça tout le monde le sait. Mais nous devons, à notre niveau, raison pour laquelle je me dis, il faut ficeler les dossiers. Les dossiers d'agression, il faut récolter toutes les preuves. À l'époque, je me rappelle du ministre Léonard Cheokitumbo et même de M. Ntumba Luaba quand il était aux droits humains, il y avait le livre blanc sur l'agression rwandaise. Et donc ici, nous devons avoir un livre blanc à jour qui répertorie tous ces incidents qu'on qualifie d'actes d'agression. Et il faut que le Congo obtienne des condamnations de ce genre du Rwanda dans plusieurs espaces dans lesquels le Congo est membre. L'idée, c'est quoi? Si nous travaillons sérieusement, nous pouvons arriver à terminer cette guerre juste par des coups de fil, quoi. Donc nous pouvons terminer cette guerre militairement si nous nous organisons sérieusement, c'est-à-dire nous boutons la M23 hors du territoire national. Nous pouvons aussi gagner cette guerre sur le plan diplomatique si nous arrivons à rallier un grand nombre des États derrière nous. Et pour ça, il faut un instrument de plaidoyer. Merci. Cet instrument de plaidoyer, ça peut être un livre blanc qui répertorie tous les actes répréhensibles qui rentrent dans ce qu'on appelle agression du territoire congolais par les Rwandais.
Merci, Juvenal Munubo. Professeur Augustin Moïsi, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma et Université catholique Graben de Boutembo. Vous posiez la question en début d'émission. C'est le moment pour vous de nous donner votre position. Vous pensez que ce qui s'est fait à la francophonie en faveur de la République démocratique du Congo peut concrètement changer quelque chose sur le terrain des affrontements ou pas?
Bon, je ne semble pas penser directement que cela pourra changer quelque chose sur le terrain, même s'il faut continuer à dire effectivement que c'est un acte important, c'est une action importante que la RDC a réussi à faire prendre à la francophonie. Mais je crois que pour que ça change, il faudrait plus d'engagement de la francophonie dans le sens où elle peut aussi appuyer le processus justement de Nairobi, pourquoi pas de Luanda, et même essayer d'aider la RDC à travailler sur un certain nombre de dossiers internes qui concernent effectivement la démobilisation, par exemple, l'appui à la démobilisation, pourquoi pas. Et c'est à cela que, effectivement, l'action de la francophonie pourra être intéressante pour la suite en ce qui concerne le retour de la paix à l'Est de la RDC.
Merci, professeur Augustin Moïsi. Nous terminons avec vous, professeur Mwaila Chiembe, professeur à l'Université de Kisangani, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. On a entendu tout au long de l'émission votre optimisme, mais est-ce que vous ne risquez pas justement de vous retrouver en porte-à-faux, votre position en tout cas, celle défendue jusqu'ici, que sur le terrain, vu que les Congolais ont attendu de nombreuses années sans que la paix soit vraiment une réalité permanente, est-ce que ce n'est pas ce qui risque d'arriver cette fois-ci encore après les résultats de la francophonie? Les combats vont toujours se poursuivre et peut-être encore pendant longtemps.
Il faudrait souhaiter que les Congolais sortent de l'approche sentimentaliste et abordent ces questions du point de vue stratégique. Parce que si on aborde la question du point de vue stratégique, qu'est-ce qu'on constate? L'usage de la force, comme la diplomatie, ce sont les deux pièces d'une même réalité. On peut à la fois mener la bataille diplomatique, ce que le gouvernement fait, et en même temps mener la guerre contre le M23 sur le terrain. C'est ce qui se fait au quotidien. La mobilisation des forces et tout ceci doit être fait sans minimiser l'un au détriment de l'autre, il faut conduire les deux.
Merci, professeur Mwaila Chiembe. On vous a longuement entendu sur ces questions et les détails que vous avez donnés sont aussi intéressants. Dieudonné Nyangasa ou Nyangasa m'a aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.